Et combien je suis heureux de vous retrouver, combien je suis heureux de partager cette pensée avec vous. Retourne à la maison dans cette série de la puissance des maisons. Et la première phrase que j'ai vraiment écrite lorsque je préparais ce message, c'est que notre vie est en danger lorsqu'on vit loin de la maison. Notre vie est en danger lorsqu'on vit loin de la maison. Lorsqu'on parle de maison, et on ne va pas refaire toute la définition et toute la série, mais j'aimerais juste préciser peut-être pour des personnes qui nous rejoignent pour la première fois dans les groupes de maison. D'ailleurs, nous vous saluons si vous êtes là pour la première fois dans un groupe. Nous vous bénissons et soyez à l'aise au milieu de nous. Et dans cette série, je disais des maisons. Lorsqu'on parle des maisons, on parle tout simplement d'abord de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu peut être une maison spirituelle parce qu'une maison, on la définit ensemble comme un lieu aussi d'alliance. Une maison, c'est un lieu d'alliance. Une maison, ça peut être mon noyau aussi familial. Une maison, ça peut être mes amis proches. Une maison, bien sûr, ça peut être le groupe dans lequel je suis en ce moment même, alors que je suis dans l'unité avec ces personnes avec qui Dieu m'a connecté. Ça forme une maison. Mais j'aimerais nous dire que ça soit dans le noyau familial, que ça soit avec des amis avec lesquels Dieu m'a connecté, que ce soit mon église locale, que ce soit mon groupe de maison, chaque fois que je m'éloigne de la maison, je suis en danger. Et on va le voir, c'est pourquoi il est important, si je m'éloigne, de revenir, de retourner à la maison. Et là, il y a une parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue, mais ce n'est pas que la parabole du fils prodigue. Qui nous parle de ça aussi. C'est quoi prodigue? Un prodigue, c'est quelqu'un qui va dépenser à l'excès. C'est pour ça qu'on appelait cette parabole fils prodigue, parce qu'on a là, dans cette parabole, un fils qui va demander son héritage et qui va sortir de la maison et qui va dépenser sa fortune à l'excès. Et là, on a déjà, dans cette introduction, on a déjà un enseignement. J'aimerais te dire que chaque fois que tu sors de la maison, ou si tu n'es pas dans la maison du Père, si tu n'es pas en relation avec Dieu, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu es non seulement en danger, mais ce qui va se passer, c'est que tout le capital que Dieu t'a donné, santé, relation, énergie, tout le capital, tu auras tendance à le dépenser à l'excès. Et peut-être que tu es comme cette personne qui se dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'avais tellement ceci, j'avais cela. Ça peut être, oui, dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine relationnel, comme je disais. Même dans le domaine professionnel. Chaque fois que tu n'es pas connecté à une maison, chaque fois que tu ne restes pas connecté avec des amis avec qui Dieu t'a connecté, avec une famille spirituelle dans laquelle Dieu veut que tu grandisses, chaque fois, tu te détournes de cela, tu es en danger. Parce que hors de la maison, tu auras tendance à tout dépenser, donc à tout perdre. Je te le redis, hors de la maison, tu auras tendance à tout dépenser, voire à tout perdre. Et ce fils prodigue, dans cette parabole, à un moment donné, il a tout perdu. Et il a un choix. Soit il retourne à la maison, soit il reste hors de la maison, avec rien. Et aujourd'hui, on a tous un choix. Que tu sois chrétien, pas chrétien, nouveau, foi, pas nouveau. Tu as ce choix de rester dans la maison, voire de retourner à la maison, ou tout simplement de rester en dehors, en danger, et perdant tout. Lui va décider de rentrer avec ce qu'il a, c'est-à-dire rien. Dieu n'a pas besoin que tu aies quelque chose pour revenir à lui. Tel que tu es, peut-être tu te sens nu, misérable, comme ce texte de la parole, pauvre, aveugle, viens, retourne, tel que tu es. Arrête de te culpabiliser, reviens, tel que tu es. Et quand il revient, le Père l'accueille, les bras grands ouverts, il lui redonne sa position. J'aimerais te dire, Dieu, le Père, t'attends, les bras grands ouverts. Et on va voir maintenant la réaction de l'autre fils. Cette parabole, je disais qu'on appelle le fils prodigue, mais on pourrait l'appeler aussi la parabole des deux fils. Un qui est prodigue, c'est-à-dire qui a dépensé à l'excès, et un fils, le fils aîné, comment lui réagit lorsque son frère, qui a tout dépensé, revient à la maison et est accueilli par le père. On voit dans Luc 15, à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses parce que le père avait fait une grande fête pour se réjouir du retour de son fils prodigue. Il appela un de ses serviteurs, le fils aîné, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Ce fils aîné se met en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Oh, beaucoup sont en colère. Beaucoup sont en colère contre le Père céleste. Beaucoup sont en colère contre Dieu. Pour différentes raisons. Et peut-être toi-même, tu n'oses pas te l'avouer. Même en tant que chrétien, tu es en colère. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu es en colère. Peut-être parce que Dieu bénit certaines personnes autour de toi. Et tu ne comprends pas. Et toi-même, dans ta santé, toi-même, dans ta vie professionnelle, toi-même, dans ton couple, tu as tellement de difficultés. Tu es en colère. Tu te dis, mais pourquoi ça marche dans la vie des autres et pas dans ma vie? Pourquoi Dieu semble se réjouir? Et Dieu semble bénir les autres, mais pas moi. Le fils là est en colère. Tellement qu'il ne désire pas entrer dans la maison. Et là, j'aimerais m'adresser à des personnes, même qui se disent et qui sont chrétiens, chrétiennes. Tu peux être chrétien, chrétienne, mais vivre en dehors de la maison. Tu peux être chrétien, chrétienne, mais ne pas vouloir entrer dans une vie de proximité, d'intimité avec le Père. Parce que tu es en colère. Ou tu peux carrément refuser la foi. Parce qu'il y a des choses qui te dépassent autour de toi. Les tensions sociales, des injustices. Et tu te dis, non, moi je n'ai pas envie d'entrer dans la maison, dans une relation avec Dieu. Et quand Jésus donne cette parabole, c'est tout simplement parce que dans la tradition juive, la maison du Père, pour ceux qui aiment la langue hébraïque, Beth Av, j'ai pas dit Betrav, mais ça peut être un moment technique. Beth, la lettre Beth, vous savez, Av. Av, Avram, Abraham, qui veut dire père. Beth, Av, la maison du Père. Dans la tradition juive, Beth, Av, c'est le lieu de sécurité. C'est le lieu de protection. C'est le lieu de transmission. C'est le lieu de la vie. Donc c'est pour ça que lorsque nous sommes hors de la maison, nous sommes en dehors du lieu de protection, nous sommes en dehors du lieu de transmission, nous sommes en dehors du lieu de la vie, nous sommes en dehors du lieu de la sécurité. Et ce fils aîné qui est en colère refuse d'entrer, de revenir dans le lieu de sécurité, de protection, de transmission de vie. Oh, je ne sais pas si tu es à l'extérieur. Parce que tu as été prodigue et tu as pris tout ce que Dieu avait pour toi et ou même sans mettre Dieu dans ta vie, tu as dépensé à l'excès ta santé, tu as dépensé à l'excès tes relations, tu as dépensé à l'excès ton énergie et tu te trouves complètement vide. Ou tu es à l'extérieur parce que tu étais dans les champs. On se demande qu'est-ce qu'il faisait dans les champs, lui le fils aîné qui avait sa place était de régner. Pourquoi il était dans les champs? Mais une chose est sûre, il était sorti lui aussi. Et toi aussi, tu es sorti. Toi aussi, tu es sorti peut-être par découragement. Toi aussi, tu es sorti peut-être pour aller en dehors de ton champ d'appel. Toi aussi, tu es sorti pour faire tellement de trucs. Mais une chose est sûre aujourd'hui, tu n'as plus envie d'entrer parce que tu es déçu. Déçu de Dieu ou peut-être même déçu des hommes. Oh, mais retourne à la maison du Père. Retourne à la maison, et le titre de ce message, c'était aussi retourne à la maison, mais à la maison du pain. Parce que la maison du Père, Beth Av, c'est peut être la maison du pain. Pourquoi je le dis? Parce que la maison du pain, c'est le nom, c'est la traduction littérale de Bethléem. Pourquoi Bethléem? Mais Bethléem, oui, c'est le lieu, la ville où Jésus est né. Mais je fais ce parallèle entre la maison du Père Céleste et Bethléem. Pas juste parce que Bethléem, c'est là où Jésus est né. Mais parce que Bethléem, oui, signifie la maison du pain. Jésus qui nous a dit, lorsque vous priez, donne-nous Et quand vous priez, quand vous adressez au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. C'est-à-dire, le Père dans sa maison a tellement du pain à te donner que Jésus va dire, quand tu pries, demande le pain. Le pain pour toi, c'est la santé. Le pain pour toi, c'est que tu retrouves la joie de vivre. Le pain pour toi, que tu retrouves peut-être la foi. Je ne sais pas c'est quoi le pain pour toi, mais tu ne peux pas recevoir, je dis même pas acheter, tu ne peux pas recevoir le pain gratuit de Dieu si tu es en dehors de sa maison. C'est dans la maison du Père Céleste que le pain est disponible pour ta vie. Quel pain as-tu besoin? Quel pain as-tu besoin? Retourne dans la maison du pain. Il y a un pain disponible. Et là, le Père qui entend son fils aîné refuser d'entrer, qu'est-ce qu'il va faire? Luc 15, 28. Une version parole de vie va dire ceci. Alors le fils aîné se met en colère, mais il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer. Une autre version parole vivante va dire, alors le fils aîné se met en colère et refuse de franchir le seuil de la porte. Non, je n'entrerai pas. Finalement, son père sort et insiste pour qu'il entre parce que le Père Céleste sait que le pain est disponible. J'aimerais dire à quelqu'un, le Père sort avec insistance et dit, viens mon enfant, il y a du pain pour toi, il y a la vie pour toi, il y a la vie en abondance pour toi, il y a un changement pour toi, il y a une transformation pour toi. Il y a quelque chose dans ta vie que j'ai à ta disposition. La maison du pain est remplie de pain. La maison du pain est rempli de santé. La maison du pain est remplie de vie professionnelle. La maison du pain est remplie d'intervention pour ton couple. La maison du pain est remplie de guérison pour ton cœur, là où tu as été blessé. La maison du pain est une maison de guérison, de libération, de bénédiction. Retourne à la maison du pain. Oh, qu'est-ce que le fils aîné faisait au champ? On peut tellement spéculer. Mais le point est le suivant. Dans les champs, quand il est revenu, il a refusé d'entrer. Et nous avons prié. Dans ce groupe où tu es, on a prié pour que tu reviennes. Pas juste dans un groupe. Pas juste que tu retrouves une relation. Pas juste que tu te rapproches à nouveau de ton mari ou de ton épouse. Bien sûr, c'est des étapes. Et comme je disais, la maison, c'est des relations aussi. Mais que tu retrouves une relation avec le Père Céleste. Que tu retrouves et que tu entendes le Père et que tu vois le Père sortir. Et en fait, cette parabole extraordinaire, en fait, c'est la parabole d'un père qui attend ses enfants qui sont dehors. Peu importe qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, qu'ils aient tout dilapidé, qu'ils n'aient rien. Peu importe, je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sais une chose, le Père sort pour te rechercher. Pour te prier. Et la Bible dit, pour insister. Parce qu'il sait que si tu juste que tu ouvres son cœur, le pain quotidien dont tu as besoin, aujourd'hui, sera relâché dans ta vie. Et Dieu m'a mis à cœur, ça c'était l'introduction, l'histoire de Ruth. Je la rappelle brièvement. Ruth, c'est qui Ruth? Mais avant de parler de Ruth, je vais parler de cet homme-là qui habitait Bethléem, à un moment donné. Il y avait un homme qui habitait Bethléem. Et à cause, donc, dans la maison du pain, à un moment donné, il y a eu la famine à Bethléem. Et cet homme va quitter Bethléem pour aller dans une ville, dans un pays étranger. Dans ce pays étranger, donc, il va prendre sa femme, ses enfants, pour aller dans ce pays étranger. Et dans ce pays étranger, à un moment donné, je vous fais court, il va mourir. Là où il l'attendait, être béni, être protégé. Il quitte la maison du pain pour s'éloigner. Parce qu'il y a des temps difficiles. Parfois, il y a des temps difficiles. On s'éloigne de Dieu. Il quitte la maison du pain. Il quitte Bethléem. Il prend toute sa famille et va mourir. Et non seulement lui va mourir, mais ses deux fils vont mourir loin de Bethléem. Et ses deux fils vont laisser deux veuves. Plus lui, cet homme va laisser aussi sa femme qui s'appelle Naomi, veuve. Et parmi ces deux veuves de ses fils, il y a une qui s'appelle Ruth. Et elle va être restée attachée à Naomi, sa belle-mère. Naomi va à un moment donné réaliser qu'elle doit retourner à la maison du pain, qu'elle doit retourner à Bethléem. Et Ruth va dire, mais moi, là où tu iras, je veux aller, je veux pas te lâcher, je veux retourner avec toi à Bethléem, à la maison du pain. Il retourne Elle retourne, donc Ruth et Naomi, à Bethléem, à la maison du pain. Et qu'est-ce qui se passe à la maison du pain? Elle retourne, on s'est démunis. À ce moment-là, les veuves n'avaient pas les minima sociaux. Les veuves, à ce moment-là, n'avaient rien. Dans la fragilité, dans la pénurie, dans tellement dans la pauvreté. Mais elle retourne à la maison du pain. Et c'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas l'état dans lequel elles sont, mais dans la décision de retourner à la maison du pain va déclencher ce que moi j'appelle, et pas que moi, mais ce que j'appelle les coïncidences divines. Comme elle est retournée à la maison du pain, Ruth, souvenez-vous, cette étrangère au peuple d'Israël qui était devenue veuve, sans enfant, retourne à la maison du pain avec Naomi et à la maison du pain, suite à des circonstances, à des coïncidences divines, elle va rencontrer ce que la Bible dit, un puissant riche qui va lui permettre ce qu'on appelait à l'époque de glaner, c'est-à-dire que la loi obligeait les propriétaires à ne pas tout ramasser de leurs champs afin que les pauvres puissent venir se servir. Et Dieu va conduire des circonstances extraordinaires pour que Ruth se retrouve dans la propriété de Boaz et va commencer à glaner. Et voilà mon premier point. Dans la maison du pain, tu peux enfin manger. Elle pauvre, elle misérable, elle veuve, va être au bénéfice des coïncidences divines qui vont travailler pour qu'elle puisse glaner dans une propriété d'un puissant riche. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui peut-être hésite à retourner à la maison. Moi, je te fais une promesse, mais en fait, c'est Dieu qui te fait la promesse. C'est ce Père qui sort pour venir te rencontrer et pour te dire, écoute-moi, si tu décides de retourner, fais-moi confiance. Je veux faire travailler des coïncidences divines pour que tu puisses vivre le surnaturel. Que ce soit financier, relationnel, familial, mais peu importe. Et Ruth, elle se retrouve juste au bon endroit, j'ai envie de dire, dans le bon environnement, la maison du pain. Et là, bam, 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 Dieu fait travailler des choses pour que des circonstances de sa vie commencent à changer, commencent à se transformer. C'est Dieu qui est à l'initiative de cela. Il y a des philosophes qui ont appelé Dieu le maître de l'horloge. C'est celui dont la Bible dit, il est maître des temps et des circonstances. Et je dis ceci, alors que tu vas revenir dans la maison, les circonstances vont commencer à bouger. Parce que Dieu va tout organiser pour que quelque chose puisse se passer. Mais attention, je ne te vends pas du rêve. Permets-moi de te tutoyer pour ceux que je ne connais pas. Je ne te vends pas du rêve. Parce que le mot pain a exactement le même mot que combat en hébreu. Eh oui, fais grâce, la reine, la racine de pain, c'est exactement la même racine que combat. Pourquoi Dieu a voulu ci? Pourquoi Dieu utilise un mot pain et le même mot pour convaincre? Pourquoi? Parce que retourner à Bethléem, retourner à la maison du pain, manger à nouveau le pain, ce n'est pas toujours facile. Et j'aimerais être honnête et t'annoncer toute la vérité et rien que la vérité. Et toute la vérité, rien que la vérité, c'est que le diable fera tout pour t'empêcher, chrétien, pas chrétien, de retourner à la maison du pain. La maison du pain, c'est aussi la maison du combat. Positionne-toi. Reste ferme dans tes choix. Et peut-être, et j'entends souvent cela, oh, depuis que je prie, depuis que je reviens à la maison, depuis que je cherche Dieu, il y a ceci qui m'arrive, il y a telle chose qui m'arrive. Dieu attire-t-il la malédiction? Non! C'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a des esprits, j'aimerais te dire, méchants, qui veulent t'empêcher que tu restes, que tu demeures dans la maison. Il y a le diable, il y a l'ennemi, donc c'est un combat. Mais c'est un combat, et on va le voir tout à l'heure, que Christ, que Jésus a déjà remporté. Mais toi, c'est quoi ta responsabilité? Ta responsabilité, c'est de dire, non, le pain est disponible, mais il y a des moments... Juste peut-être, et c'est peut-être ton cas, je serais tenté à sortir de la maison parce qu'il y a des difficultés, parce que peut-être qu'il y a des embûches. Tu ne peux pas accéder aux ressources que Dieu a pour toi sans accepter de t'engager dans le bon combat de la foi. La foi, c'est il y a des combats. La foi, c'est pas certains pour certains. La foi, c'est pour des faibles. La foi, c'est pour ceux et celles qui décident de s'engager dans ce combat et de dire, je sais que Jésus-Christ est vivant. Je sais qu'il y a du pain disponible. Je sais que ma vie sera plus la même. Mais il y aura aussi des difficultés. Il y aura aussi des moments compliqués. Mais par ma foi, je vais vaincre. La différence, c'est quoi? Je me dirai, mais c'est quoi la différence entre avoir la foi et ne pas avoir la foi, puisque dans tous les cas, c'est des combats. Non, la différence. C'est que ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui combats, c'est Christ, c'est Jésus-Christ qui combat à travers toi. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc, Ruth ne s'est pas retrouvée à Bethléem sans difficulté. Elle qui était étrangère, elle choisit de rester collée à Naomi. C'était pas sans difficulté. Elle devait se positionner, quitter son lieu, rester dans ce lieu à Bethléem, quitter sa terre. C'est pas facile. Toujours. Mais si tu restes ferme, tu vas voir la différence. Et comme je disais tout à l'heure, Anna Omé va dire, là où tu iras, j'irai. Tu as pris cet engagement. Tu as été peut-être même baptisé. Reste ferme dans tes positions. Retourne à la maison si tu t'en es éloigné. C'est encore possible aujourd'hui. Et Ruth va travailler. J'ai dit glaner, mais glaner, c'est pas, je ne vais pas dire un mauvais mot, glander, ça se dit ou pas? Glaner, c'est pas glander. Elle va travailler. C'est en travaillant que les portes vont s'ouvrir. Le travail n'est pas une malédiction. Je parle à quelques jeunes là. Le travail, c'est pas une malédiction. Selon Dieu lui-même et le livre de la Genèse, le travail nous permet de gouverner. Parce que Ruth va commencer à travailler, pain, combat. Elle va commencer à gouverner. Elle va commencer à régner sur sa vie. Oui, Dieu pourvoit. Oui, Dieu donne. Mais lève-toi. Combat. Oui, Dieu va rendre les choses accessibles. Mais toi, lève-toi. Commence à bouger. Commence à te positionner. C'est pas facile. Il y a des amis. Il y a peut-être des collègues. Je ne sais pas. Il y a des circonstances. Il y a des circonstances de ton corps qui te disent non, tu t'es trompé. Non, c'est pas possible. Mais alors que je suis en train de prêcher, alors que je suis en train de parler, en ce moment même, ta foi est en train d'être renouvelée. Dis, ah oui, c'est vrai, je me suis laissé avoir. Mais maintenant, positionne-toi et travaille. Combat le bon combat. Quand tu acceptes de livrer le combat que Dieu place devant toi, des portes s'ouvrent. Mais reste dans ton champ. Pas dans des champs, dans le champ que Dieu a mis devant toi. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Comme je vous ai dit que Dieu orchestre. Dans sa maison, Dieu orchestre. Dans les relations que Dieu met autour de toi, Dieu va orchestrer. Comme un dieu. Il ne va pas te forcer. Il ne va pas contrôler ta vie. Il va t'amener des circonstances. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Mais tu vas faire maintenant des choix. Des choix qui vont t'ouvrir d'autres perspectives. À un moment donné, celle qui glanait dans leur propriété de Boaz, Ruth, va se retrouver épouser Boaz. Waouh! Et cet homme, Boaz, va en même recevoir des encouragements des chefs ou des anciens d'Israël. Regardez-moi avec moi, rapidement. Luc 4, verset 11. Alors que tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, oui, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et Léa, qui à elles deux ont donné naissance à tout un peuple Israël. C'est des anciens qui disent ça. Et écoutez-moi bien. C'est pas grave si vous ne comprenez pas pour certains cette partie, mais écoutez ce qu'il dit, ce que disent les anciens. Puisses-tu toi-même prospérer à Éphrata et devenir célèbre à Bethléem? Je ne sais pas. Je vais expliquer brièvement ce texte, mais je ne sais pas dans quel état d'esprit. Mais quand tu retournes à la maison comme Ruth, tu vas rencontrer un Boaz. Tu vas rencontrer, peut-être pas dans le cadre du mariage, des Boaz, des personnes qui vont t'amener le plus dont tu as besoin, mais que Dieu va amener sur ton chemin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là, il y a cette bénédiction, cette parole de bénédiction. Et pendant que je suis en train de parler là, je vois des personnes et vous avez reçu des paroles de malédiction. Des paroles qui vous empêchent aujourd'hui d'accéder à ce que Dieu a pour vous. Mais à Bethléem, dans la maison du pain, tu as des paroles de bénédiction. Tu as des paroles qui vont t'édifier, qui vont t'encourager. Là où le diable t'a volé, là où le diable a volé ton appel, là où le diable a volé ton service, là où le diable a pris quelque chose. Dans la maison du Père, tu es célébré. Dans la maison du Père, tu es béni. Et ça m'amène à mon deuxième point. Dans la maison du Père, tu peux enfin enfanter. C'est quoi le lien entre enfanter? Vous allez voir. Je vous le dis de suite. Parce que Ephrata signifie littéralement lieu de la fécondité. Et Ephrata, c'était exactement le même mot que Bethléem. Bethléem était aussi appelé Ephrata. C'est pour ça qu'il est dit, puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata, devenir célèbre à Bethléem. Ephrata et Bethléem, c'est même pareil. Ephrata veut dire fécondité. Quand tu retournes à Bethléem, tu retournes dans un environnement où tu commences à porter du fruit. Tu retournes dans un environnement où tu deviens fécond, féconde. Elle est tellement féconde que même dans le naturel, Ruth, de son union avec Boaz, va donner naissance à un fils qui va s'appeler Obed, ce fils qui veut dire celui qui sert. Je m'adresse à des personnes qui ont quitté la maison, qui n'ont plus le goût de servir, qui n'ont plus le goût de faire des choses pour Dieu. Peut-être que tu as été abusé, tu t'es senti abusé, je ne sais pas ce qui s'est passé, découragé, blessé, tu n'as plus le goût de servir. Mais quand tu retournes à la maison du pain, à un moment donné, tu enfantes Obed. En fait, quand tu es, il y a un des signes que tu es dans la maison du pain, et je ne parle pas de l'activisme, faire des choses pour faire des choses, mais un des signes visibles que tu es dans la maison du pain, c'est que tu sers. Tu portes du fruit qui s'appelle le service. Tu portes du fruit qui s'appelle « Je ne regarde plus à moi, je regarde aux autres. » Tu portes du fruit qui s'appelle « Je ne regarde plus à moi, mais je veux juste que ma vie entière puisse adorer Dieu, que ma vie entière puisse le célébrer. » Et quelque chose se passe autour. Et je me rappelle à un moment donné de ma vie, j'étais tellement dans un état, je ne voulais plus la maison du Père. Je croyais en Dieu, mais je ne voulais plus servir. Mais parce que j'étais reparti dans la maison du Père, à un moment donné, automatiquement, j'ai été fécond et j'ai donné naissance à un Obed, celui qui sert. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata, le lieu de fécondité, à Bethléem. Et je le dis dans le nom de Jésus, parce que tu vas retourner à Bethléem, tu vas vivre un Ephrata. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hors de la maison, tu auras tendance à tout dépenser, donc à tout perdre. Mais imagine, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Mais c'est dans la maison, dans ta relation avec Dieu, que tu vas non seulement récupérer ce que le diable t'a volé, mais aussi prospérer à la façon de Dieu de manière extraordinaire. Oh, elle épouse le propriétaire. Elle épouse le propriétaire, elle donne naissance même à un fils. La veuve, sans enfant, devient mariée, étrangère, mais parce qu'elle a fait le choix de retourner à la maison. Et mon dernier point est le suivant. Tout ça, manger, enfanter, je le résume avec mon dernier point. Dans la maison du pain, tu peux enfin te relever. Dans la maison du pain, tu peux enfin te relever. De retour à la maison, le fils prodigue va se relever. Il ne s'est plus laissé écraser par les événements. À un moment donné, il est entré en lui-même. Il a dû entrer. On ne sait pas, la parabole ne nous dit pas que c'est passé pour le fils aîné. Est-ce qu'il a tendu la main du père, il est entré? Pourquoi ça se termine ainsi? C'est pour que toi, tu puisses dire, moi, je vais rentrer. Le fils aîné est passé d'un environnement de pourceau à un environnement de pain. D'orphelin, il est vraiment redevenu fils. Ruth, elle, qui était étrangère, revient avec Naomi, sa belle-mère, à Bethléem, à la maison du pain. Je le redis, elle épouse Boaz, mais quelque chose de plus grand. Elle se retrouve dans la lignée de Jésus-Christ. Wow. En fait, en ayant choisi Bethléem, l'étrangère aux promesses devient plus qu'une bénéficiaire. Elle devient participante. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu te considères comme étranger, étrangère, tu te dis, mais ces choses-là, ce n'est pas pour moi. De toute façon, il n'y a que les autres qui reçoivent des promesses. Pour certains, quand il y a des paroles prophétiques, c'est que pour les autres. Quoi? Dans la maison du pain? C'est pour toi. Tu deviens pas juste bénéficiaire. Il y a plus que bénéficiaire. Tu deviens participante parce que tu vas servir, parce que tu vas te donner et tu vas voir des choses se mettre en place dans ta vie. Et on voit cela. Le dernier exemple que je prends dans la vie de Samuel. À un moment donné, Samuel est découragé parce qu'il avait mis tous ses espoirs à un homme qui s'appelle Saül et que Dieu avait... qu'il avait oint pour être roi. Mais qui n'était pas forcément le choix de Dieu. Mais Samuel avait mis tous ses espoirs en cet homme. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 16:1, l'Éternel dit à Samuel, alors que Saül a fait n'importe quoi, Dieu va dire à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël ?» Écoutez, j'aime bien ça. « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. » Voilà ce que te dit. Voilà ce que Dieu te dit. « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Combien de temps vas-tu encore pleurer ? Combien de temps vas-tu encore gémir ? Combien de temps vas-tu rester en dehors de la maison ? Combien de temps vas-tu faire le bilan de ta vie et dire « rien ne marche » ? Combien de temps vas-tu dire « ouais, je suis chrétien, mais ça fonctionne pas, ça marche. » Combien de temps vas-tu dire que je suis seul ? Combien de temps vas-tu dire que je ne supporte pas d'être en connexion avec les frères et sœurs ? Combien de temps vas-tu dire ? Combien de temps vas-tu pleurer ? Va à Bethléem. À Bethléem, tu peux enfin avancer, te relever. Oh, mais je le dis, que la maison du pain, c'est la maison aussi du combat. La maison du pain, c'est la maison du combat. Mais la maison du pain est très connectée à la maison du sang. La maison du pain, c'est Jésus qui a donné son corps et versé son sang. C'est pour ça que le mot pain, c'est aussi le mot combat. Parce que Dieu a voulu que dans le pain se cache la croix. Et quand je te parle de la maison du pain, je te parle de la maison de son corps et de la maison de son sang. La Bible dit, Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » C'est Jésus qui dit, « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus a donné, son sang a été versé. Et je parle à celui qui n'a pas reçu Jésus. La maison du pain, c'est la maison du sang de Jésus. Mais je parle à celui qui a déjà reçu Jésus dans sa vie aussi. La maison du pain, c'est la maison de son sang. Et comme on l'a entendu dimanche dernier, le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché. Tu peux revenir, tu peux demander pardon, tu peux t'humilier dans sa présence et recevoir la vie comme tu l'avais reçu la première fois que tu avais accepté Jésus. La maison du pain, tu peux manger. Dans la maison du pain, tu peux enfanter. Dans la maison du pain, tu peux enfin te relever. Et permets-moi, pendant que je préparais ce texte, de te lire ce passage de 1 Roi 17, verset 11. C'est Élie qui va vers une veuve qui est démunie. Et il y a tellement de passages qui disent que le pain, tu peux le recevoir. La Bible nous dit, Élie l'appelle de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et la veuve répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. » C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas comment tu es rentré dans cette maison. Après quoi nous mourrons ? Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point, c'est pour toi. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Rapidement. Le d'abord veut juste dire, cherche premièrement Jésus. Et les choses vont se débloquer. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole de l'Éternel. Voici, je t'annonce ce qui va se passer quand tu vas commencer à obéir et à croire dans ce message. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et selon la parole que tu as entendue ce matin, je dis ceci, que la farine ne manquera pas, le pain ne manquera pas, la réponse de Dieu ne manquera pas. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, le message est simple, retourne dans la maison.